OK, les enfants, là, papa travaille.
C'est quoi qui se passe, là? C'est rendu un peu trop calme, je trouve ça louche. Finalement, je trouvais ça utile de les entendre, c'est juste que c'était trop fort. Je me demande combien de bruit on a besoin d'entendre pour continuer de savoir ce qui se passe autour de nous quand on travaille et à quel niveau le bruit devient une agression plutôt qu'une information.
La SST expliquée avec François-Étienne Paré.
Christian Giguère, professeur à l'École des sciences de la réadaptation à l'Université d'Ottawa, nous parle de la perception des sons utiles en milieu de travail.
En milieu de travail, il y a plusieurs sons qu'on pourrait dire utiles. Ce sont les sons qui sont nécessaires pour réaliser notre travail de façon efficace et sécuritaire. Alors, dans tout milieu, par exemple, on doit être en contact avec son milieu sonore, ne serait-ce que pour communiquer verbalement avec ses collègues, pour réagir et entendre bien les alarmes sonores du milieu, et aussi, parfois, de s'assurer que notre machine ou l'outil avec lequel on travaille sonne normalement. Donc, nos oreilles, tout comme nos yeux, là, nous permettent de savoir tout ce qui se passe autour de nous. Mais il faut savoir aussi que dans certains milieux où il y a beaucoup de bruit, comme un chantier de construction, bien, ça devient difficile parce que le bruit va venir brouiller un peu la perception de ces sons utiles-là.
Je me demande c'est quoi les différents types d'alarmes qu'un travailleur ou une travailleuse peut entendre. Hugues Nélis, chercheur senior à l'IRSST, nous explique.
Bien, globalement, en milieu de travail, on va retrouver deux grandes classes d'alarmes. Il y a des alarmes qui veulent vraiment nous envoyer un message d'urgence, là, ou d'évacuation. On va penser, par exemple, aux alarmes de feu, aux alarmes de monoxyde de carbone, qui nous demandent d'évacuer assez rapidement. Donc, c'est des alarmes qui vont, en général, assez fortes en milieu de travail. Ce sont souvent des alarmes fixes. Mais on a aussi des alarmes installées sur des camions. Là, on pense aux chariots élévateurs, des camions dans des chantiers de construction, avec des alarmes de recul, là, le célèbre bip, 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 qui sont là pour nous avertir d'un danger qui est immédiat. On va retrouver aussi d'autres types de signaux avertisseurs. Si on veut, dans les milieux de travail, c'est plutôt les signaux là, sonores qu'on retrouve sur des machines qui sont là pour nous alerter qu'il y a quelque chose qui se passe, soit par exemple que la machine se termine, qu'il faut faire une action immédiate sur un procédé ou la machine. Ces signaux-là sont là, en gros, pour nous avertir d'une action à effectuer, une action concrète, mais n'envoient pas nécessairement un message là, de danger immédiat.
OK. Ce que je comprends, c'est qu'il y a des sons qui servent juste à m'informer de quelque chose et qu'il y en a d'autres qui sont là pour me dire que je dois agir. Ah, mon popcorn est prêt! Ah, joy! Oh, ça prendra aussi un son pour nous dire quand c'est prêt à manger. Bon, mon eau est prête. Oh, un bon thé vert avec du popcorn. Quel mélange alléchant. Ah, ma brassée est prête. Je m'assise tout de là. Dans un instant, Christian nous explique les principales caractéristiques des signaux d'alarme.
Bien, les signaux d'alarme et les signaux avertisseurs, ils doivent être conçus forcément pour attirer l'attention. Alors, un des trucs qu'on utilise parfois, c'est de les faire pulser, comme les bip-bip des alarmes de recul sur camions lourds, ou de moduler la fréquence, comme les sirènes d'ambulance, par exemple. Un autre paramètre important, évidemment, c'est le niveau sonore de l'alarme. Il doit être assez fort pour attirer l'attention des travailleurs, mais il est quand même déconseillé de le mettre trop fort, car ça peut créer des effets nuisibles. Par exemple, on pourrait déclencher des réflexes de sursaut, et si on est très proche du dispositif, on pourrait même engendrer une perte auditive temporaire. Puis, les signaux qui sont trop forts peuvent être entendus très loin de la source de danger et incommoder, évidemment, les personnes qui ne sont pas concernées par la source de danger. En fait, dans certaines municipalités, il y a eu, dans le passé, de nombreuses plaintes au sujet, par exemple, des alarmes de recul des camions lourds qui étaient entendues très loin du chantier de construction, par exemple. Donc, il y a toujours un équilibre à faire pour le niveau sonore entre un niveau qui est suffisamment fort pour attirer l'attention des travailleurs qui sont dans la zone de danger, mais pas de nuire aux riverains qui sont très loin de la source de danger. Un autre aspect des signaux d'alarme, surtout les signaux d'alarme qui sont placés sur des véhicules mobiles comme les camions lourds, bien, il faut que non seulement on soit capable de les détecter, mais aussi de pouvoir déterminer automatiquement dans quelle direction ils proviennent, surtout quand on les voit pas. Par exemple, si on avait un camion lourd qui reculait vers nous, derrière nous, eh bien, on voudrait savoir dans quelle direction il provient, parce qu'on ne les voit pas, et de façon à pouvoir s'esquiver dans la bonne direction. Alors ça, ça s'appelle la localisation sonore et ça nécessite l'utilisation des deux oreilles. Alors au total, nos recherches ont démontré que les signaux qui contiennent plusieurs fréquences, on les appelle parfois les signaux en bande large, sont préférables aux signaux qui contiennent seulement une fréquence en termes d'attirer l'attention des travailleurs, d'être facilement localisable dans l'espace et de ne pas créer trop de nuisances environnementales pour les riverains.
Les bouchons sont mes meilleurs amis quand le voisin pratique son violon.
Puis il aime ça, pratiquer son violon pendant des heures.
Mais pendant que je portais mes bouchons, j'ai manqué 4 textos, mes chums sont passés puis j'ai jamais entendu la sonnette. Mon chien a jappé pendant une heure sans qu'on s'en rende compte. Hey, finalement, j'haïs pas ça, les bouchons. Mais au travail, c'est peut-être pas l'idéal. Christian nous explique ce qui arrive lorsque les travailleuses et travailleurs portent des protecteurs contre le bruit sur leurs oreilles.
Les protecteurs contre le bruit, évidemment, réduisent l'exposition sonore au bruit. Évidemment, c'est la fonction principale. Par contre, il faut savoir que si ces protecteurs atténuent trop l'environnement sonore autour de nous, eh bien, ça va affecter aussi la perception des sons utiles. Il y a toujours un compromis à faire entre protéger suffisamment le travailleur ou la travailleuse contre le bruit pour avoir un bon effet sur la santé auditive, mais pas de surprotéger parce que là, on peut créer des problèmes de sécurité si on n'entend plus, par exemple, les sons avertisseurs. Alors, un autre aspect des protecteurs auditifs, c'est qu'ils nuisent beaucoup à la localisation des sons dans l'espace. Beaucoup plus difficile à localiser les sons lorsque les protecteurs sont utilisés. Surtout les coquilles qui couvrent le pavillon de l'oreille. Un peu moins pour les bouchons d'oreille, mais encore là, même avec les bouchons d'oreille, c'est plus difficile qu'avec les oreilles nues.
Il me semble que ça prendrait plus de sons sur plus d'affaires. Hein, ça prendrait des sons avec plus de profondeur, plus de musicalité comme à laveuse. Toute la vie serait tellement plus harmonieuse. Imaginez le camion de poubelle qui recule. Finalement, c'est peut-être pas une si bonne idée que ça, là. Ça me donne plus le goût d'aller vers le camion que de m'en éloigner. Oui, tout compte fait, je vais laisser les experts nous expliquer ce que nous réserve l'avenir en matière de perception d'alarmes sonores en milieu de travail.
Au niveau de la recherche, là, au niveau de la perception des signaux sonores en milieu de travail, il fait beaucoup de choses sur les protecteurs auditifs. Les protecteurs auditifs sont largement utilisés en milieu de travail. Là, on l'a dit, on veut baisser le bruit à des niveaux suffisamment faibles pour qu'on soit bien protégé. Mais en même temps, on aimerait quand même bien comprendre les signaux utiles et la parole des gens qui doivent communiquer avec nous. Donc, avec les avancées technologiques, là, les haut-parleurs miniatures, les microphones miniatures et des algorithmes assez avancés, on est maintenant capable, et on pense être capable dans le futur, de pouvoir aller mieux sélectionner là, les signaux qui nous sont utiles, les laisser passer sous le protecteur, mais tout en gardant le niveau de bruit global assez faible là, pour rester protégé. Il y a aussi toute la problématique des personnes malentendantes en milieu de travail. Il y a beaucoup de gens qui portent des prothèses auditives en milieu de travail. Prothèse auditive, c'est un dispositif qui amplifie le bruit, qui amplifie tout, en fait, pour combler les pertes auditives des personnes. Maintenant, le problème qu'on a, c'est qu'on ne veut pas trop amplifier tout. On veut quand même les protéger. Donc, il y a tout un pan de recherche à faire sur comment on amplifie sans amplifier trop et, ce faisant, comment garder les signaux utiles qui soient bien compris et garder aussi la communication avec les gens autour de nous. Donc, il y a tout un pan de recherche là-dessus. On pourrait aussi imaginer reconcevoir là, les signaux sonores utiles qui nous entourent, là, particulièrement les signaux avertisseurs. Là, je pense à l'alarme de recul là, qui fait bip, bip, bip. Maintenant, on l'entend sous une autre forme. L'alarme large bande qui fait pich, pich, pich. Ça en est un exemple. On pourrait peut-être penser à aller plus loin et essayer de voir est-ce qu'il y a d'autres bruits qui seraient peut-être moins achalants pour les gens autour, mais qui enverraient un peu le même message ou même de façon peut-être plus utile aux travailleurs. Finalement, on pourrait aussi penser à des dispositifs, là, soit des haut-parleurs ou des dispositifs dans ce genre-là, qui nous permettraient de générer du bruit dans des zones très, très particulières. On pense par exemple à un camion où on voudrait générer le bruit juste en arrière du camion, puis on ne voudrait pas que le bruit aille dans les zones qui sont moins utiles et déranger les riverains. On parle ici par exemple, de haut-parleurs directionnels là, qui viendraient vraiment, là, entre guillemets, arroser de bruit dans des zones très, très, très précises.
Hey, un arrosoir à bruit. Je mets ça tout de suite sur ma liste de cadeaux. Merci à Christian Giguère et à Hugues Nélis. Je vous invite à écouter les autres épisodes de la SST Expliquée sur votre plateforme préférée.